Sophie et Alberto retournèrent s'asseoir. À peine Sophie s'était-elle penchée au-dessus de la reproduction pour l'étudier, qu'Alberto la lui arracha presque des mains. « Voyons d'abord les grandes lignes. Eh bien, tu n'as qu'à commencer. » Nous avons oublié de mentionner que Marx vécut les dernières 34 années de sa vie à Londres. Il s'installa là-bas en 1849 et y mourut en 1883. À la même époque, vivait dans les environs de Londres un certain Charles Darwin. Il mourut en 1882 et eut droit à des funérailles solennelles à Westminster Abbey, en tant que digne fils de l'Angleterre. Mais Marx et Darwin n'ont pas seulement vécu au même endroit au même moment. Il y a d'autres points de rapprochement entre eux. Marx voulut lui dédicacer l'édition anglaise de son grand livre, Le Capital. Mais Darwin refusa. Quand Marx mourut un an après Darwin, son ami Friedrich Engels fit la remarque suivante. De même que Darwin a découvert les lois de l'évolution organique de la nature, Marx a découvert les lois du développement historique de l'humanité. Je comprends. Un autre penseur qui eut une grande influence et que l'on peut aussi rapprocher de Darwin fut le psychologue Sigmund Freud. Lui aussi passa un demi-siècle plus tard les dernières années de sa vie à Londres. Freud montra qu'aussi bien Darwin dans sa théorie de l'évolution que lui-même avec sa théorie de la psychanalyse avait blessé l'homme dans l'amour naïf qu'il portait à lui-même. Ça en fait des noms à la fois. On commence par qui ? Marx, Darwin ou Freud ? On pourrait parler d'une manière générale d'un mouvement naturaliste qui a commencé au milieu du 19e siècle pour se poursuivre une bonne partie du 20e siècle. Par ce terme de naturalisme, nous entendons une conception de la nature qui ne reconnaît point d'autre réalité que la nature et le monde sensible. Aussi, un naturaliste ne considère-t-il l'homme que comme faisant partie de la nature, et il fondera ses recherches exclusivement sur des faits naturels et non sur des considérations d'ordre rationnel ou encore sur une quelconque forme de révélation divine. Ceci vaut aussi bien pour Marx que pour Darwin et Freud ? Absolument. Les mots-clés du milieu du 19e en philosophie et en sciences étaient nature, milieu, histoire, évolution et développement. Pour Marx, l'idéologie des hommes était le produit des conditions matérielles de la société. Darwin montra que l'homme était le fruit d'une longue évolution biologique et, grâce à ses recherches sur l'inconscient, Freud mit en évidence que les actions des hommes sont souvent le fait de pulsions ou d'instincts. Je crois que je comprends à peu près ce que tu veux dire par naturalisme, mais ne pourrais-tu pas parler d'un seul homme à la fois ? Alors parlons de Darwin. Tu te souviens que les présocratiques voulaient trouver des explications naturelles aux phénomènes naturels. De même qu'ils durent pour se faire s'affranchir des explications mythologiques, Darwin dut aussi se libérer de la conception de l'Église concernant la création de l'homme et de l'animal. Mais est-ce que c'était un philosophe ? Darwin était un biologiste et un chercheur. Mais il fut le premier scientifique à oser contredire la Bible sur la question de la place de l'homme dans la création. Alors, tu vas me parler un peu de la théorie de l'évolution chez Darwin ? Commençons par Darwin lui-même. Il naquit en 1809 dans la petite ville de Shrewsbury. Son père, le docteur Robert Darwin, était un médecin réputé qui avait des principes sévères quant à l'éducation de son fils. Quand Charles alla au lycée à Shrewsbury, le proviseur parla de lui comme quelqu'un qui aimait traîner, se vanter de théories et discourir pendant des heures sans jamais rien accomplir de sérieux. Par « sérieux », le proviseur entendait certainement la conjugaison des verbes en latin et en grec. Par « traîner », il pensait sans doute au fait que Charles séchait les cours pour collectionner toutes sortes de hannetons. Il a dû regretter ses propos par la suite. Pendant ses études de théologie, Darwin se passionnait surtout pour la chasse aux oiseaux et sa collection d'insectes. Aussi n'eut-il pas des résultats particulièrement brillants à son examen de théologie. Mais il parvint néanmoins à jouir d'une certaine réputation en tant que naturaliste. Il s'intéressait aussi à la géologie, qui était à l'époque une science fort répandue. Dès qu'il eut son diplôme de théologie de l'université de Cambridge en poche, il parcourut le nord du pays de Galles pour étudier la formation des roches et chercher des fossiles. En avril 1831, alors qu'il n'avait que 22 ans, il reçut une lettre qui changea toute sa vie. Qui avait-il dans cette lettre? Cette lettre venait de son ami et professeur John Stephen Henslow. Ce dernier écrivait « On m'a demandé de recommander un chercheur en sciences naturelles pour accompagner le capitaine Fitz Roy, qui a été engagé par le gouvernement pour établir la carte de la pointe sud de l'Amérique. J'ai expliqué que je te considérais comme la personne la plus compétente pour une telle tâche. Je ne sais rien concernant le salaire. Le voyage doit durer 2 ans. Tu sais tout ça par cœur? Oh, ce n'est rien. Et il a répondu oui. Il mourait bien sûr d'envie de saisir la chance qu'on lui offrait, mais à cette époque, les jeunes gens n'entreprenaient rien sans le consentement de leurs parents. Le père fut long à convaincre, mais il finit par accepter de laisser partir son fils et de payer son voyage. Car en fait, il ne toucha pas un centime. Oh ! Le navire appartenait à la marine anglaise et s'appelait HMS Beagle. Le 27 décembre 1831, le Beagle quitta le port de Plymouth et mit le cap sur l'Amérique du Sud. Il ne retourna en Angleterre qu'en octobre 1836. Les 2 années prévues devinrent 5 au bout du compte. Et ce voyage en Amérique du Sud se transforma en véritable tour du monde. Il s'agit du plus important voyage scientifique de notre époque. Ils ont vraiment fait le tour de la Terre? Oui, au vrai sens du terme. D'Amérique du Sud, ils traversèrent le Pacifique et arrivèrent en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Afrique du Sud. De là, ils remirent le cap sur l'Amérique du Sud avant de revenir enfin en Angleterre. Darwin lui-même écrivit que son voyage sur le Beagle a été l'événement le plus déterminant de toute sa vie. Ça ne devait pas être facile d'être un chercheur en sciences naturelles sur l'océan. Les premières années, le Beagle longea seulement les côtes d'Amérique du Sud, ce qui permet à Darwin de bien se familiariser avec cette partie du monde. Les nombreuses incursions qu'il eut l'occasion de faire dans les îles Galapagos, au large du Pacifique, furent d'une importance capitale pour ses travaux. Il put en effet rassembler toutes sortes d'échantillons qu'il envoya en Angleterre au fur et à mesure. Mais ses réflexions sur la nature et l'histoire du vivant, il les garda pour lui. En rentrant dans son pays âgé seulement de 27 ans, il était déjà un chercheur célèbre et il avait déjà une idée précise de ce qui allait devenir plus tard sa théorie de l'évolution. Il attendit cependant de nombreuses années avant de publier son œuvre maîtresse, car Darwin était un homme prudent, ce qui est plutôt normal pour un chercheur. Quel fut son ouvrage le plus important? Oh, il publia divers livres, mais celui qui provoqua un véritable tollé en Angleterre parut en 1859 sous le titre « De l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ». L'intitulé exact était « On the origin of species by means of natural selection » or « The preservation of favored races in the struggle for life ». Ce titre résume à lui seul toute la théorie de Darwin. Dans ce cas, tu ferais bien de traduire, s'il te plaît. « De l'origine des espèces par la sélection naturelle » ou « La préservation des races favorisées » dans la lutte pour la vie. Effectivement, c'est un titre qui en dit long. Nous allons décortiquer tout ça. Dans son livre « De l'origine des espèces », Darwin pose d'emblée 2 théories, ou si tu préfères, 2 thèses principales. La première, c'est que toutes les plantes ou les animaux qui existent aujourd'hui descendent de formes plus anciennes, plus primitives. Il affirme donc qu'il se produit une évolution biologique. La deuxième, c'est que l'évolution est due à une sélection naturelle. Parce que seuls les plus forts survivent, n'est-ce pas? Oui, mais analysons d'abord d'un peu plus près cette théorie de l'évolution. Au départ, elle n'est pas si originale que ça. Dès les années 1800, on vit se répandre dans certains milieux la croyance en une évolution biologique. On peut citer à ce titre le rôle joué par le zoologue français Jean-Baptiste Lamarck. Quant au propre grand-père de Darwin, Erasmus Darwin, il avait déjà lancé l'idée que toutes les plantes et les animaux s'étaient développées à partir d'un petit nombre d'espèces primitives. Mais aucun des deux n'était parvenu à expliquer comment s'était produite une telle évolution. C'est pourquoi il n'avait pas vraiment encouru les foudres de l'Église. Alors que ce fut le cas de Darwin ? Oui, et on comprend aisément pourquoi. Dans les milieux religieux, mais aussi dans plusieurs milieux scientifiques, on s'en tenait à la version de la Bible qui dit que les plantes et les animaux ont une nature immuable. L'idée sous-jacente était que chaque espèce animale avait été créée une fois pour toutes par un acte créateur particulier. Cette conception chrétienne présentait en outre l'avantage d'être corroborée par Platon et Aristote. Comment ça ? La théorie des idées de Platon partait du principe que toutes les espèces d'animaux étaient immuables, parce qu'elles étaient créées d'après les modèles ou les formes des idées éternelles. Chez Aristote aussi, on retrouve cette idée de l'immuabilité des espèces animales. Il fallut attendre l'époque de Darwin pour que toute une série de découvertes et d'observations remettent en cause cette conception traditionnelle. De quel genre d'observations et d'expériences s'agissait-il ? On trouva tout d'abord de plus en plus de fossiles, ainsi que de grands morceaux de squelettes d'animaux. Darwin lui-même s'étonna de trouver des fossiles d'animaux marins dans des régions élevées, comme cela avait été le cas dans les Andes, par exemple. Que venaient faire des animaux marins dans la cordillère des Andes, Sophie ? Tu as une idée ? Non ? Certains pensaient que des hommes, ou des animaux, les y avaient laissés. D'autres y virent la main de Dieu qui aurait créé de tels fossiles et restes d'animaux marins pour égarer les incroyants. Et qu'en pensait la science ? La plupart des géologues s'en tenaient à une théorie de la catastrophe, selon laquelle la Terre avait été à diverses reprises soit recouverte par les eaux, soit secouée par des tremblements de terre ou des catastrophes de ce genre qui avaient éradiqué toute forme de vie. Une telle catastrophe est aussi attestée dans la Bible, c'est le déluge avec l'arche de Noé. À chaque catastrophe, Dieu renouvelait la vie sur terre en créant de nouvelles et plus parfaites espèces animales et végétales. Les fossiles étaient donc les traces des formes antérieures de vie qui furent anéanties par de violentes catastrophes ? Exactement. On disait que les fossiles étaient la trace des animaux qui n'avaient pas trouvé de place dans l'arche de Noé. Mais quand Darwin s'embarqua sur le Beagle, il emporta dans ses bagages le premier tome de l'œuvre du géologue anglais Charles Lyell, Principles of Geology. Selon lui, la géographie actuelle de la Terre, avec ses hautes montagnes et ses vallées profondes, témoignait d'une évolution extrêmement longue et lente. L'idée, c'était que des changements apparemment minimes pouvaient conduire à de grands bouleversements géographiques si l'on prenait en considération des espaces de temps suffisamment grands. À quel genre de changement pensait-il en disant ça ? Il pensait aux mêmes forces qui s'exercent de nos jours, au temps et au vent, à la fonte des neiges, aux tremblements de terre et à la dérive des continents. Tout le monde sait que la goutte d'eau finit par éroder la pierre, non par sa force, mais par son action répétée. Lyell pensait que de tels petits changements progressifs pouvaient, sur un laps de temps assez long, transformer la nature de fond en comble. Darwin pressentait qu'il détenait là l'explication pour les fossiles d'animaux marins retrouvés si haut dans les Andes. Et il n'oublia jamais dans ses recherches que d'infimes changements très progressifs peuvent conduire à un bouleversement total de la nature, pour peu qu'on laisse le temps faire son travail. Il pensait donc que cette théorie s'appliquait aussi à l'évolution des animaux ? Bien sûr. Il se posa la question. Mais Darwin était, je le répète, un homme prudent. Il s'interrogeait longuement avant de se risquer à proposer une réponse. Sur ce point, il rejoint tous les vrais philosophes. L'important, c'est de poser la question. Et il ne s'agit surtout pas d'y répondre trop hâtivement. Je comprends. Un facteur déterminant dans la théorie de Lyell, c'était l'âge de la Terre. À l'époque de Darwin, on s'accordait généralement à reconnaître que la création de la Terre par Dieu remontait à environ 6000 ans. Ce chiffre était le résultat de l'addition de toutes les générations depuis Adam et Ève. Plutôt naïf comme raisonnement. C'est toujours facile de critiquer après. Darwin, lui, avança le chiffre de 300 millions d'années. Une chose est sûre en tout cas, la théorie de l'aïeul, comme celle de Darwin, n'avait aucun sens si l'on ne tenait pas compte de périodes de temps tout à fait considérables. Quel âge a la Terre ? Nous savons aujourd'hui qu'elle a 4,6 milliards d'années. Le compte doit être bon. Pour l'instant, nous nous sommes concentrés sur un des arguments de Darwin pour étayer sa théorie de l'évolution biologique, à savoir la présence de plusieurs couches de fossiles dans diverses formations rocheuses. Un autre argument, c'était la répartition géographique des espèces vivantes. Son propre voyage lui permit de glaner des matériaux extrêmement neufs et intéressants. Il put constater, de visu, que diverses espèces animales dans une même région présentaient de très légères différences entre elles. Ce fut surtout le cas sur les îles Galapagos, à l'ouest de l'équateur. Raconte. Nous parlons d'un groupe concentré d'îles volcaniques. Aussi, ne pouvait-on pas constater de grandes différences dans la vie végétale ou animale ? Mais Darwin s'intéressait précisément aux infimes modifications au sein d'une même espèce. Sur toutes ces îles, il rencontra de grandes tortues éléphants. Mais celles-ci présentaient de légères variations d'une île à l'autre. Pourquoi Dieu aurait-il créé une espèce de tortue éléphant différente pour chacune des îles ? Ça paraît peu probable, en effet. Ses observations sur la vie des oiseaux dans les îles Galapagos lui permirent d'aller plus loin. D'une île à l'autre, il put observer des variations très précises entre différentes espèces de pinsons. Darwin établit une corrélation entre la forme de leur bec et le type de nourriture qu'ils trouvaient sur l'île, graines de pommes de pin ou insectes vivant sur les troncs d'arbres et les branches. Chacun de ces pinsons possédait en effet un type de bec, pointu ou crochu, parfaitement adapté pour saisir sa nourriture. Tous ces pinsons descendaient-ils d'une seule espèce qui, au cours des ans, s'était adaptée à l'environnement de ces différentes îles pour aboutir à l'existence de plusieurs nouvelles espèces de pinsons ? Il est donc parvenu à cette conclusion ? Oui, c'est peut-être sur les îles Galapagos que Darwin est devenu darwiniste. Il remarqua aussi que la vie animale sur ce petit groupe d'îles présentait de grandes similitudes avec des espèces animales qu'il avait observées en Amérique du Sud. Dieu avait-il réellement créé une bonne fois pour toutes ces espèces avec leurs légères différences entre elles, ou bien s'était-il produit une évolution ? Il douta de plus en plus de la prétendue immuabilité des espèces, mais n'avait encore aucune théorie satisfaisante pour expliquer comment une telle évolution ou adaptation à l'environnement pouvait se produire. Il y avait encore un argument pour démontrer que tous les animaux sur Terre étaient apparentés. Ah ? Cela concernait l'évolution du fœtus chez les mammifères. Si l'on compare le fœtus d'un chien, d'une chauve-souris, d'un lapin et d'un être humain à un stade précoce, il est presque impossible de les distinguer clairement les uns des autres. Il faut attendre un stade beaucoup plus avancé pour que le fœtus d'un être humain ne ressemble plus à celui d'un lapin. Cela ne serait-il pas le signe que nous serions tous lointainement apparentés les uns aux autres ? Mais il n'avait toujours aucune explication pour cette évolution. Non. Il ne cessait de réfléchir à la théorie de l'aïeul sur ces infimes changements qui pouvaient, à la longue, provoquer d'énormes bouleversements. Mais il ne trouvait aucune explication qui pût tenir lieu de principe universel. Il connaissait la théorie du zoologue français Lamarck, qui avait démontré que les espèces animales avaient progressivement développé ce dont elles avaient besoin. Les girafes, par exemple, avaient fini par avoir un long cou, car pendant des générations, elles avaient tendu le cou pour atteindre les feuilles des arbres. Lamarck pensait aussi que les qualités obtenues avec peine par un individu étaient transmises à la génération suivante. Mais Darwin dut rejeter, faute de preuves, cette théorie audacieuse sur les « caractères acquis » et qui seraient héréditaires. Mais autre chose lui trottait dans la tête. Il avait, pour ainsi dire, le mécanisme même de l'évolution des espèces sous les yeux. « J'attends de voir où tu veux en venir. » Je préférerais que tu découvres ce mécanisme par toi-même. C'est pourquoi je te pose la question. Si tu as 3 vaches, mais assez de fourrage pour en nourrir 2 seulement, que vas-tu faire? En tuer une? Eh bien, laquelle vas-tu sacrifier? Je tuerai certainement celle qui donne le moins de lait. Tu dis ça? Oui, c'est logique. Et c'est ce que les hommes ont fait pendant des millénaires. Mais revenons à nos 2 vaches. Si l'une d'elles devait veiller, laquelle choisirais-tu? Celle qui aurait le plus de lait? Comme ça, je serais sûr que la génisse deviendrait une bonne vache laitière plus tard. Tu préfères donc les bonnes vaches laitières aux mauvaises. Alors venons-en maintenant à notre dernier exercice. Si tu t'occupais de chasse et possédais 2 braques et que tu devais te séparer de l'un d'eux, lequel garderais-tu? Je garderais naturellement celui qui saurait le mieux trouver la trace du gibier. Tu favoriserais donc le meilleur braque. Eh bien, c'est exactement ainsi que les hommes ont pratiqué l'élevage pendant plus de 10 000 ans. Les poules n'ont pas toujours pondu 5 œufs par semaine. Les moutons n'ont pas toujours donné autant de laine et les chevaux n'ont pas toujours été aussi forts et rapides. Mais les hommes ont fait une sélection artificielle. Cela vaut aussi pour le monde végétal. Qui mettrait de mauvaises pommes de terre dans son jardin s'il peut se procurer de meilleurs plants? Faucher des épis qui ne portent pas de blé n'a aucun intérêt. Pour Darwin, aucune vache, aucun épi de blé, aucun chien et aucun pinson n'est tout à fait identique. La nature offre des variations à l'infini. Même à l'intérieur d'une seule espèce, il n'y a pas 2 individus en tout point semblables. Tu te rappelles peut-être ce que tu avais ressenti après avoir goûté à la petite bouteille bleue? Oui, c'est vrai. Darwin se posa par conséquent la question suivante. Un mécanisme de ce genre pouvait-il exister dans la nature aussi? La nature était-elle en mesure de faire une sélection naturelle des spécimens qui auraient le droit de survivre? Et surtout, un tel mécanisme pouvait-il, au bout d'un terme assez long, créer de toutes nouvelles espèces végétales et animales? Je parie que la réponse est oui. Darwin ne parvenait cependant pas à se représenter exactement comment une telle sélection naturelle pouvait se produire. Mais en octobre 1838, tout juste 2 ans après son retour sur le Beagle, il tomba par hasard sur un petit livre de l'expert en démographie, Thomas Malthus. Le livre s'intitulait « An Essay on the Principles of Population ». C'est Benjamin Franklin, l'inventeur américain du paratonnerre, entre autres choses, qui avait été à l'origine de ce livre. Franklin soutenait l'idée que s'il n'existait pas de facteur de limitation dans la nature, chacune des espèces végétales ou animales se serait répandue sur toute la Terre. Mais du fait de leur grande diversité, elles se maintiennent en équilibre les unes par rapport aux autres. Je comprends. Malthus développe cette pensée en l'appliquant à la situation démographique de la Terre. Selon lui, les êtres humains ont la capacité de donner la vie à davantage d'enfants qu'il ne peut en survivre. Parce que la production de la nourriture ne pourra jamais suivre le rythme de l'accroissement de la population, il soutenait l'idée qu'un grand nombre est condamné à périr dans la lutte pour la vie. Ceux qui parviendront à grandir, et par conséquent engendreront d'autres générations, seront ceux qui réussiront le mieux à survivre dans cette lutte pour la vie. Ça paraît logique? Mais c'était justement le mécanisme universel que Darwin cherchait à trouver. Désormais, il détenait l'explication de l'évolution des espèces. Tout cela était la conséquence de la sélection naturelle dans la lutte pour la vie. Celui qui est le mieux adapté aux circonstances extérieures survit et assure la continuation de l'espèce. Voilà la 2e théorie qui apparut dans son livre « De l'origine des espèces ». Il écrivit « L'éléphant est de tous les animaux celui dont le développement est le plus lent. Mais si tous les éléphantaux devaient survivre, il y aurait en 750 ans près de 19 millions d'éléphants qui descendraient d'un seul couple. Sans parler des milliers d'œufs de cabillaud que pond un seul poisson. » Darwin souligne que la lutte pour la vie est souvent la plus rude entre des espèces très proches. Ils doivent se battre pour la même nourriture. C'est là qu'apparaissent le mieux les légers avantages de telle ou telle espèce par rapport à la moyenne. Plus la lutte pour la vie est dure, plus l'évolution vers de nouvelles espèces sera rapide. Seuls les meilleurs survivront, les autres espèces disparaîtront peu à peu. Moins il y aura de nourriture et plus les portées seront nombreuses, plus l'évolution sera rapide. Il ne s'agit pas seulement de nourriture. Il faut aussi veiller à ne pas être mangé par les autres animaux. Il peut se révéler avantageux d'avoir une couleur de camouflage qui vous protège, de pouvoir courir vite, de percevoir les animaux ennemis ou encore, pourquoi pas, d'avoir mauvais goût. Être armé d'un poison qui tue les prédateurs, ce n'est pas négligeable non plus. Ce n'est pas un hasard si tant de cactus sont empoisonnés, Sophie. Dans le désert, ne poussent pratiquement que les cactus. C'est pourquoi cette plante est particulièrement exposée aux animaux herbivores. La plupart des cactus ont aussi des piquants. La qualité essentielle est bien entendu celle de pouvoir se reproduire. Darwin étudia très précisément le système de fécondation des plantes. Les plantes déploient leurs couleurs chatoyantes et répandent dans l'air leur doux parfum afin d'attirer les insectes nécessaires pour transporter le pollen et féconder une autre plante. Les magnifiques chants des oiseaux ont la même fonction. C'est pourquoi un taureau paisible et mélancolique qui n'est pas attiré par les vaches ne présente aucun intérêt pour l'histoire de l'espèce. De telles qualités déviantes sont condamnées à disparaître d'elles-mêmes, car le seul devoir de l'individu est d'atteindre l'âge de reproduction et d'assurer la survie de l'espèce. C'est comme une longue course de relais. Ceux qui ne peuvent pas, pour une raison ou une autre, transmettre leur patrimoine génétique seront petit à petit éliminés. De cette façon, l'espèce deviendra de plus en plus sophistiquée. La capacité de résistance aux maladies reste, par exemple, une constante à travers toutes les variations de l'espèce qui survit. Tout s'améliore donc en permanence. La sélection naturelle permanente fait que ceux qui sont le mieux adaptés à un certain milieu ou à un certain environnement écologique assureront la survie de l'espèce dans ce cadre-là. Mais ce qui est un avantage dans ce milieu peut se révéler être un inconvénient dans un autre milieu. Pour certains pinsons des îles Galapagos, l'agilité de leur vol était une qualité essentielle. Mais cela devient accessoire de bien savoir voler si toute la nourriture se trouve au sol et qu'il n'y a pas d'animaux prédateurs dans les parages. C'est justement parce qu'il existe tant de différents milieux écologiques que tant d'espèces se sont perpétuées au fil des siècles. Mais il n'existe qu'une seule espèce d'homme ? Oui, car l'être humain a une extraordinaire faculté d'adaptation, quelles que soient les conditions de vie extérieures. Darwin fut frappé de voir les Indiens de la Terre de Feu réussir à vivre dans un tel froid. Cela ne veut pas dire pour autant que tous les hommes sont semblables. Si les hommes qui vivent près de l'équateur ont la peau plus sombre que ceux qui vivent plus au nord, c'est parce que leur peau doit se protéger contre les rayons du soleil. Les blancs qui exposent souvent leur peau au soleil risquent davantage d'avoir un cancer de la peau. Est-ce un avantage d'avoir la peau blanche quand on habite au nord? Il faut croire que oui. Sinon, tous les hommes auraient la peau foncée. Un type de peau blanche permet plus facilement de prendre la vitamine D du soleil, ce qui n'est pas négligeable sous des latitudes où il y a peu de soleil. Cela a moins d'importance de nos jours, car nous pouvons compenser les vitamines du soleil par notre nourriture. Mais rien dans la nature n'est le fait du hasard. Tout est le fruit d'infimes transformations au fil des générations. C'est extraordinaire quand on y pense. Oui, n'est-ce pas? Bon, je crois que nous pouvons pour l'instant résumer la pensée de Darwin. Eh bien, en disant que la matière première ou le matériau de la vie sur la Terre, ce sont les constantes variations entre les individus d'une seule et même espèce. Et le taux de natalité élevé n'est là que pour permettre aux plus forts de se développer. Ce mécanisme, ou cette énergie de vie à l'origine de toute l'évolution, c'est la sélection naturelle dans la lutte pour la vie. Cette sélection a pour conséquence que seuls les plus forts ou les mieux adaptés survivent. Je trouve que ça paraît aussi logique qu'un calcul en mathématiques. Quel fut l'accueil de ce livre sur l'origine des espèces? Il souleva un tollé général. L'Église éleva les protestations les plus vives. Quant au milieu scientifique anglais, il restait très partagé. Ce qui, au fond, n'a rien d'étonnant si l'on pense que Darwin avait retiré à Dieu une bonne partie de la création. Certains, pourtant, firent à juste titre remarquer que c'était plus extraordinaire de créer quelque chose possédant ses propres facultés de transformation que de créer une fois pour toutes chaque chose dans ses moindres détails.